Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Liban, des frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait plus de 14 morts. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé son refus de négociations directes entre Beyrouth et Israël. Et en France, plusieurs prisons subissent depuis ce lundi des blocages. Des syndicats demandent des mesures d'urgence contre la surpopulation et c'est l'un de nos dossiers du jour à suivre. On débute ce rendez-vous d'information par l'actualité. Au Moyen-Orient, au Liban, des frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait 14 morts. Bilan quotidien le plus lourd depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 17 avril. Un soldat israélien a également été tué dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper des positions du Hezbollah dans la région de la Beka, dans l'est du pays. Et le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé son refus de négociations directes entre Beyrouth et Israël, les qualifiant de dangereux écarts qui risquent d'entraîner le Liban dans un cycle d'instabilité. Et le président libanais Joseph Aoun a souligné que le but des négociations directes avec Israël était de mettre fin au conflit, ajoutant à l'intention du Hezbollah que la véritable trahison était d'avoir entraîné le Liban dans la guerre. Et Donald Trump tiendra dans la journée une réunion de crise sur l'Iran, selon des médias américains. Dans le reste de l'actualité, le Mali est plongé dans une situation sécuritaire critique après une série d'attaques menées samedi à travers le pays par des djihadistes alliés à la rébellion Touareg contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir. Le ministre de la Défense a été tué dans ces attaques et c'est l'un de nos dossiers du jour à suivre. Et enfin, en France, plusieurs prisons ont subi des blocages à l'appel d'un syndicat de surveillants pénitentiaires, l'UFAP UNSA, pour demander des mesures d'urgence contre la surpopulation carcérale et les sous-effectifs. Et on en parle dans notre dossier du jour à suivre. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et on débute par l'actualité au Moyen-Orient, dans le sud du Liban. Israël a créé une ligne jaune, une ligne de démarcation, une zone dite de défense. Et pour Rima Boulmalak, ancienne ministre de la Culture et aujourd'hui directrice du journal libanais L'Orient le Jour, la stratégie israélienne dans la région sonne comme du déjà-vu et est déjà vouée à l'échec. On l'écoute.
Ce vocabulaire de zone tampon, ligne de défense, ces mots-là qu'on a déjà entendus tellement de fois dans le passé. Vous avez derrière moi des archives de L'Orient le Jour, dont un numéro de 1978, quand Israël a envahi le sud Liban. On est en train de revivre la même histoire. À l'époque aussi, il y avait les mots de zone tampon, de ligne de défense. À l'époque aussi, ça devait être temporaire. Et en fait, Israël est resté 22 ans. 22 ans d'occupation, 22 ans qui ont en fait nourri et renforcé la rhétorique de la résistance, même s'il était financé et nourri par l'Iran par ailleurs, mais quelque part l'occupation israélienne l'a légitimé, l'occupation israélienne l'a fait naître et l'occupation israélienne l'a fait grandir. Donc on sent aujourd'hui qu'on est reparti dans un cycle très similaire à ce qu'on a déjà vécu dans le passé et c'est ça qui est terrifiant, ce sentiment d'un jour sans fin où on n'apprend pas des leçons de l'histoire et où cette stratégie militaire jusqu'au boutiste, on sait d'avance qu'elle ne va pas avoir l'effet escompté, à savoir éradiquer le Hezbollah et permettre la sécurité pour la population israélienne de l'autre côté. Donc dans les deux cas, tout le monde est voué à l'échec avec cette stratégie jusqu'au boutiste. On a entendu tellement ça dans le passé et le temporaire a pu durer 22 ans, donc restons très très prudents avec ces mots. Dans le vocabulaire de l'armée israélienne, temporaire peut durer très longtemps. Et dans le vocabulaire du Hezbollah, ils vivent aussi sur une autre temporalité où ils jouent là une guerre existentielle en soutien au régime iranien qui lui aussi est dans un combat existentiel. Et donc pour eux, ça se pose aussi à l'échelle de plusieurs années, voire décennies. Personne ne pense le temporaire en nombre de semaines, malheureusement.
C'était Rima Boulmalak, ancienne ministre de la Culture et aujourd'hui directrice du journal libanais L'Orient le Jour, au micro de Marc-Aurel Barèze. Second dossier du jour, direction le Mali, hein, qui vit une situation sécuritaire plus que critique. Le pays a été le théâtre d'une série d'attaques coordonnées sans précédent. Le ministre de la Défense a été tué. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Vous l'avez dit, hein, une situation sans précédent depuis près de 15 ans. Les événements de mars 2012, quand des rebelles indépendantistes Touareg avaient pris le contrôle des villes de Kidal, Gao et Tombouctou dans le nord, ils avaient été vite évincés par leurs alliés islamistes associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors que se passe-t-il depuis samedi ? Eh bien, il faut savoir que le Mali est dirigé, hein, depuis 2020 par une junte militaire soutenue notamment par la Russie. Le général Assimi Goïta, chef de la junte, n'a pas été vu et n'a pas pris la parole depuis le début des violences samedi. Il aurait été exfiltré de Kati. Plusieurs observateurs s'étonnent de son silence. Et il y a ce coup dur, ce coup très dur porté au régime militaire. Vous l'avez dit, le ministre de la Défense, Sadio Camara, l'un des principaux responsables du régime, a été tué lors des attaques. Il est mort lors de l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze et son décès fait planer une forte incertitude sur l'avenir de la junte.
Et l'armée malienne poursuivait ce dimanche les combats près de la capitale et dans le nord du pays.
Hein. Elle affirme que la traque des groupes armés terroristes se poursuit à Kidal, Kati et dans d'autres localités du pays. Les rebelles Touareg dans le nord du Mali ont revendiqué le contrôle total de la ville clé de Kidal, cela après un accord avec les Russes, et cela a été confirmé. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, il s'agit de membres du Front de Libération de l'Azawad. C'est un groupe séparatiste qui réclame ce territoire. Les combats, depuis, se sont interrompus. À Gao, aussi dans le nord, les combats ont cessé, mais les rebelles sont toujours près de la ville. La situation sécuritaire, vous l'avez compris, reste plus que précaire. Bien entendu, le niveau d'alerte est relevé. Des couvre-feux sont instaurés. Le nombre de patrouille s'est multipliée et des points de contrôle sont renforcés dans tout le pays. Noël.
Merci François-Xavier de Calonne pour toutes ces précisions. Dernier dossier, direction la France. Plusieurs prisons subissent depuis ce lundi des blocages. Des syndicats demandent des mesures d'urgence contre la surpopulation carcérale, mais aussi contre les sous-effectifs des personnels pénitentiaires. On écoute Sébastien Nicolas, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, qui tire lui aussi en la sonnette d'alarme.
L'urgence, elle se résumait par quelques chiffres assez simples. Hein. On va frôler les 88 000 détenus en France pour 63 000 places opérationnelles. Il nous manque à peu près 5 000 agents pour faire fonctionner correctement cette administration. Donc on est dans une situation inédite que l'on n'a jamais connue, hein, avec plus de 5 700 matelas au sol actuellement en France. Donc 7 700 détenus qui dorment par terre dans des établissements surencombrés.
Et justement, en fait, quoi comme conséquence pour les agents pénitentiaires ?
Ah ben, comme conséquence, c'est de la promiscuité qui engendre de la violence entre les détenus, d'une part, mais aussi une violence qui se répercute contre les personnels pénitentiaires. Ça engendre effectivement de grandes difficultés de prise en charge. Une prison, ça fonctionne comme une classe. Quand un enseignant a 30 élèves, il fera un meilleur travail que s'il en a 40. Ben, nous, si on un établissement qui est calibré pour accueillir 500 détenus, il ne peut pas en accueillir 800 ou 900 et on ne peut pas nous demander de faire du bon travail parce que le travail que font les pénitentiaires, ce n'est pas uniquement garder des détenus dans une cellule ou sur une cour de promenade.
Trois personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, ça c'est monnaie courante. Et est-ce que vous êtes particulièrement inquiet aussi à l'approche de l'été et des possibles très fortes chaleurs ?
On est inquiet à chaque été dans l'administration pénitentiaire parce qu'effectivement, les établissements sur encombrés sont des poudrières. On est aussi inquiet parce que on le voit depuis aujourd'hui. Bon, on a des mouvements sociaux qui débutent en période d'élection professionnelle. Donc, on est assez inquiet par ce qui se passe à la fois côté personnel, dont on ne peut que déplorer les conditions de travail qui sont absolument exécrables, hein, dans ce contexte de surpopulation. Et il y a un fond de légitimité, hein, dans le mouvement qui est celui d'aujourd'hui, même si on peut regarder avec un peu de recul les modalités qui sont employées et le contexte, sur le fond, on se rejoint. Après, effectivement, il y a la poudrière liée à la surpopulation des détenus et on se pose un petit peu la question tous les jours de savoir quand ça va exploser. Parce que c'est pas est-ce que ça va exploser, c'est quand ça va exploser et pourquoi ça n'a pas déjà explosé. Hein, ce qui est vraiment une vraie question, parce que tous les mois, finalement, depuis à peu près un an et demi, on franchit des caps inédits de surpopulation.
C'était Sébastien Nicolas, secrétaire général du syndicat FO Direction, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.